Bonsoir, il fallait bien revenir un jour. Et oui, la rentrée politique est à la une des informés de France Info avec une question existentielle avant le premier conseil des ministres de ce mercredi. Y a-t-il un maillon fort au sein du gouvernement pour porter la bonne parole et les réformes sociales à venir? Ce n'est pas évident, vous le verrez. La rentrée également, cette semaine, celle des partis politiques face à une énigme, on va le dire, partagée. Trouver les têtes de liste aux élections européennes, là encore, casse-tête. Nous évoquerons évidemment la Grèce, entre sortie de crise officielle aujourd'hui et traumatisme profond. Il est toujours question d'austérité. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à vous, François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Avec nous également Jérémy Pelletier, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Également parmi nous Thomas Guénolé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, vous avez publié au printemps dernier Antisocial, je vais le chanter, hein. La guerre sociale est déclarée chez Plomb.
Vous perdez votre sang-froid.
C'est ça. Et avec nous également, bonsoir à vous, Irène Inchospé.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Opinion. Les informés, c'est jusqu'à 21h sur France Info à la radio. Alors il y a tout d'abord cette lettre sans précédent évoquée dans le journal, rédigée par le pape François, adressée au peuple de Dieu, aux catholiques du monde entier, pour condamner, vous l'avez entendu, les abus sexuels commis pendant des décennies sur un millier d'enfants en Pennsylvanie, aux États-Unis, par quelques 300 prêtres. Pape François écrit « La douleur de nombre de ces victimes nous est parvenue au cours du temps et nous pouvons constater que les blessures infligées ne disparaissent jamais. Ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités, ce sont ces mots, et à redoubler d'efforts pour éradiquer cette culture de mort. Les blessures ne connaissent jamais de prescription. » Ce sont donc les mots du Saint-Père. François Dorcival, je me tourne vers vous. C'est une opération manipulite et au sein de l'Église catholique ?
Oui, ça va bien au-delà, évidemment, de ce que vient de révéler le rapport de la hiérarchie catholique de la Pennsylvanie, mais c'était tellement énorme que cela a provoqué ce très long texte du pape qui se présente sous la forme d'une lettre, ouais, comme vous l'avez dit, mais ce très long texte qui est un texte de doctrine et pas seulement de condamnation. Parce que certes, on demande pardon, mais ce qu'il demande, c'est de la conversion et la transformation. Parce qu'une fois que vous avez demandé pardon, on vous accorde pardon. Or là, il va bien au-delà. Et ce qui a été rappelé tout à l'heure par votre correspondante à Rome, oui, sur le cléricalisme, désigne là aussi la hiérarchie, et on sait la hiérarchie catholique, et là on sait aussi que le pape dans ce domaine est extrêmement sévère.
Alors, Irène Inchospé, c'est du courage politique ou c'est une forme d'opportunisme également? On sait qu'il doit se rendre en Irlande prochainement,
dont le pape. Il y a eu aussi un gros scandale.
Qu'est-ce que vous diriez, vous?
Non, moi je pense que c'est pas de l'opportunisme politique, comme vous l'avez dit, c'était tellement colossal. Alors c'est vrai que c'est assez inédit, rare, et ça illustre certainement le malaise et la gravité et l'urgence qui sont ressentis à la tête de l'Église catholique. Alors effectivement, il ne demande pas vraiment pardon. Il parle de honte et de repentir. De toute façon, vous avez dit que on demande pardon, on est pardonné. Je crois pas. Je pense que là c'est juste impardonnable. Je pense que lui doit penser que Dieu pardonne, mais je pense qu'effectivement la justice humaine peut faire des choses. Mais il n'est pas dans un mea culpa comme avait pu le faire Jean-Paul II en 2000, où lui il avait demandé alors pardon pour 2000 ans de crimes et péchés commis par l'Église. Ouais. Donc effectivement c'est de la doctrine, et après il fait appel au peuple chrétien, mais concrètement ça veut dire quoi? Il fait appel à la prière et aux jeûnes.
Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce qu'il peut
y avoir... Je ne sais pas, je ne pense pas que ça suffira. Je ne pense pas que ça suffira et qu'il faut... Il faut frapper fort, et je pense que c'est assez courageux de sa part quand même, ce texte-là.
Thomas Guénolé, qu'est-ce que vous attendez après cette initiative, ce courrier du pape?
D'abord, c'est très bien que l'Église reconnaisse sa responsabilité en tant qu'institution.
On a envie de dire enfin, c'est ça, enfin.
Oui, enfin. Enfin, parce que là, je ne parle pas, je fais une parenthèse, c'est au-delà des agressions pédophiles par des prêtres, les agressions pédophiles, ça concerne énormément de gens. Rien qu'en France, ça concerne des milliers, des milliers, oui. des milliers de gens. Et il y a d'ailleurs des gens qui nous écoutent qui en ont été victimes. Et puisqu'il était question à un moment du fait qu'il n'y avait pas de prescription dans le texte, en tout cas, de François, c'est un sujet dont il faut qu'on parle, y compris en France, et dans d'autres pays, c'est que très souvent, quand une personne est victime d'une agression sexuelle quand elle est très jeune, il y a ensuite un phénomène d'amnésie. Le cerveau bloque par rapport à ce souvenir traumatisant et ça peut prendre des décennies de s'en souvenir et quand vous finissez par avoir ce souvenir horrible qui remonte à la surface c'est trop tard, les faits sont prescrits et donc pardonnez-moi cette tendance mais oui. Je sais qu'en France on peut encore porter plainte jusqu'à l'âge de 39 ans de mémoire, mais je pense qu'il faudrait éventuellement aller encore au-delà et qu'il y a des questions dans plusieurs pays qui se posent sur les délais de prescription par rapport aux agressions sexuelles pédophiles.
C'est un détail important.
Ça me paraît important de le souligner, pardon c'est un peu à côté mais ça me semble être quand même dans le sujet. D'autre part, c'est très bien donc que l'Église reconnaisse sa responsabilité en tant qu'institution et que le pape veuille arrêter l'omerta et l'impunité, mais il faut aussi des sanctions judiciaires. Judiciaires.
Alors là, ça ne relève pas de l'Église catholique.
Certes, effectivement, mais simplement le fait que l'Église accompagne un mouvement de sanctions judiciaires, non seulement contre les pédophiles, mais, excusez-moi, contre tous ceux qui les ont couverts dans l'Église.
Oui. On va rester sur le sujet après le rappel de l'info. D'abord, Jérémy Pelletier, on ne vous a pas encore entendu. C'était inéluctable, cette lettre du pape. On ne sait pas trop sur le tempo, ça arrive trop tôt, trop tard.
Alors, ce qui est certain, c'est que le contenu du rapport est accablant. Effrayant, affreux, très sincèrement, quand vous lisez même des bribes du rapport, c'est absolument abject. Et effectivement, je pense que rien ne pouvait être fait sans qu'une telle lettre ou une telle expression de la part du pape. Effectivement, c'est inédit. On a l'impression qu'il s'exprime sur un tabou, finalement. Enfin, c'est ça que tout le monde a en tête à travers la lecture de cette lettre. C'est que finalement, la plus haute autorité de cette institution s'exprime sur un tabou. Après, effectivement... Il faut pas nier le caractère sans doute opportuniste aussi de la lettre. Vous l'avez rappelé, il y a un déplacement en Irlande. Et par ailleurs, autre élément, le pape s'est beaucoup exprimé sur une autre affaire qui est de tout ordre, évidemment, le 9 août dernier, lorsque les sénateurs en Argentine ont rejeté le projet de loi légalisant l'avortement. Mmh. Il avait promis de ne pas interférer dans ce qu'il se passait dans son pays natal. Or, il a multiplié les expressions pour inciter très fortement les sénateurs, beaucoup plus conservateurs évidemment que les députés en Argentine, pour rejeter ce projet de loi légalisant l'avortement. Donc, ne nions pas le côté peut-être opportuniste effectivement de cette lettre.
Allez, 20h10 aux informés de France Info, nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, mon cher Emmanuel Langlois.
Décision de la cour d'appel ce jeudi dans l'affaire Boubacari. Après la rixe de l'aéroport d'Orly, le parquet général requiert le maintien en détention de tous les protagonistes mis en cause qui demandaient la fin de leur détention, soit en tout 10 personnes encore détenues, dont les deux rappeurs. Le pape pose donc le ton après le scandale de pédophilie révélé la semaine dernière aux États-Unis. Dans une lettre diffusée par le Vatican, le souverain pontife condamne ces atrocités. Il appelle la communauté catholique à s'engager pour garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Un alpiniste italien de 36 ans fait une chute mortelle de 600 mètres dans le massif du Mont Blanc. L'homme escaladait en solo la face nord des Grandes Jorasses lorsqu'il a chuté au passage d'un éperon rocheux. Total se désengage officiellement de ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran. Le géant pétrolier français plie bagage après le rétablissement des sanctions américaines contre le régime de Téhéran. Et puis Joe Wilfried Tsonga, forfait pour l'US Open à New York à la fin du mois. Le français blessé depuis le mois d'avril, déjà absent à Roland-Garros à Wimbledon. Il espère, dit-il, revenir sur le circuit d'ici la fin de la saison.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors il y a eu des condamnations concernant un archevêque australien qui a été condamné le mois dernier à un an de prison pour avoir couvert les agissements d'un prêtre pédophile. C'est une ancienne affaire, ça remonte à plus de 40 ans. François Dorcival, aux États-Unis également, un ancien archevêque de Washington qui a dû renoncer à ses fonctions de cardinal pour des soupçons d'abus sexuels sur des mineurs, puis sur des séminaristes, des histoires qui durent des dizaines d'années. Est-ce qu'il faut s'attendre, François Dorcival, à une purge au sein de l'Église catholique, par-delà ces affaires qui vont se régler devant des tribunaux au fond civil,
Mais elle ne serait pas nouvelle. elle ne serait pas nouvelle. Car effectivement, et d'ailleurs, ce qui a été le scandale et qui d'une certaine façon s'ajoute à toutes les révélations que nous avons lues et entendues depuis des années, ce qui a été le scandale, c'est en effet le silence qui a couvert. Et donc, Thomas Guénolé le rappelait tout à l'heure, tout ceci concerne des jeunes et ça s'étale sur des décennies parce que, évidemment, toutes ces atrocités, ces abjections se combattent d'abord à l'intérieur de soi-même par l'oubli. Mais ça n'est, c'est la responsabilité de la collectivité, de la communauté catholique et de la collectivité d'une manière générale, elle, de ne pas oublier, de condamner et d'aller en justice.
Encore quelques mots sur ce sujet, Irène Inchospé. Est-ce qu'il n'y a pas en creux, au fond, toujours l'éternelle question du célibat des prêtres sur la table? Enfin, je vous vois hocher la tête,
Thomas Guénolé. Non, c'est pas
Thomas
parce qu'on est célibataire qu'on est prédisposé à la pédophilie. Excusez-moi, il n'y a pas de rapport entre les deux sujets.
Non, moi je ne vois pas.
Excusez-moi,
je ne vois pas de rapport entre deux sujets. Tout ce qu'on peut constater, quand même, c'est qu'il n'y a pas de tel scandale de pédophilie chez les protestants.
Je pensais à ça.
C'est un constat. Maintenant, je reconnais que...
Je ne fais pas de lien de cause à effet.
Il n'y a pas de lien. Je constate ça, c'est tout. Les pasteurs sont mariés. Et pour l'instant, enfin, peut-être qu'il y en a un qui va éclater demain. Et là, je relève ma ligne. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu qu'il y ait des scandales aussi monumentaux au sein de la communauté protestante.
Encore un mot là-dessus, Jérémy Pelletier. Bon, pas de lien de cause à effet entre ces affaires de pédophilie et le célibat des prêtres, qui reste un sujet sur la table malgré tout.
Oui, ça reste un sujet sur la table, mais moi, voilà, vraiment, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est l'impression que tout le monde, quasiment, a déjà entendu une histoire vis-à-vis de ça. Tout le monde a déjà entendu des histoires de campagne, tout le monde a déjà entendu des histoires de village vis-à-vis de ces histoires-là, et finalement,
et de ville.
Donc, je ne méprise pas, absolument pas, et ne discrimine pas.
Et les camps de vacances prêtres, les vestiaires de sport, etc.
Un seul territoire, mais.
Et l'environnement familial, enfin, c'est un problème.
Thomas Guénolé qui précise,
excusez-moi.
Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que c'est ça qui est frappant, c'est que finalement, tout ça ne surprend presque absolument personne, en fait. La lecture de cette lettre ne surprend, et la lecture du rapport, quand bien même il est abject, je suis désolé, mais ne surprend presque personne.
Non, c'est pas le rapport.
En sort d'Orcival.
Non, le rapport décrit des abjections. Mais le rapport en lui-même, au contraire, c'est lui qui est là pour nettoyer. À partir du moment où l'on révèle tout ça, c'est pour nettoyer, c'est pour appeler l'engagement, c'est pour appeler à la transformation. Je dois dire que de ce point de vue-là, les mots du pape disent bien ce qu'ils veulent dire et sont extraordinairement pédagogiques parce qu'ils sont clairs, c'est pas de la théologie.
Voilà, ce sera le mot de la fin sur cette lettre, on va le dire, historique, spectaculaire du pape François à propos de la pédophilie au sein de l'Église catholique. Nous allons aborder à présent le sujet à 20h15 sur France Info, à la une ce soir, celui de la rentrée politique, avec tout d'abord celle du gouvernement. Ce sera mercredi en Conseil des ministres et la semaine prochaine en séminaire auprès du président Emmanuel Macron. Fini l'euphorie du début du quinquennat, nous sommes dans le dur du sujet, on dit ça à chaque fois d'ailleurs. Pour Stéphane Le Foll, cette rentrée sera compliquée pour le gouvernement. L'actuel maire du Mans, ancien ministre d'Agriculture, ancien porte-parole du gouvernement de François Hollande, invité ce matin de Jean-Jérôme Bertolu sur France Info.
C'est une rentrée compliquée parce que la majorité et le président de la République ont été extrêmement dispendieux et ont dépensé beaucoup dans les dépenses fiscales. Suppression de l'ISF, prélèvement forfaitaire unique, taxe d'habitation, suppression du CICE. Tout ça, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliards. Et maintenant, ce qu'ils avaient comme acquis, c'était la croissance de 2017, plus de 2%. Ils comptaient sur 2% en 2018. On va être en dessous.
1,8.
Voilà. Donc, moins de recettes fiscales. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui était prévu comme dépenses va devoir être financé. Et si on est aussi haut en termes de dépenses fiscales, il faudra couper dans la dépense publique.
François d'Orcival, vous êtes d'accord avec Stéphane Le Foll?
Écoutez, ce qui est vrai, c'est que ce gouvernement est arrivé, et naturellement, quand on vient d'être élu, on commence par soigner son électorat, ses électeurs. Bon. Mais néanmoins, les électeurs en question ont déjà subi un paquet de hausses d'impôts, et en particulier celle de la CSG qui a fait mal sur une partie de cet électorat, c'est-à-dire les retraités. Et la promesse qui a été faite en contrepartie de cette hausse de la CSG, c'était de dire, bon, on va agir sur la taxe d'habitation. Comment vont-ils le faire? Et on voit bien, en outre, qu'ils ont promis des augmentations de crédits auprès d'un certain nombre de ministères, la défense, l'éducation nationale, qui sont prioritaires, et on voit aussi qu'il y a des aides dans le domaine des contrats aidés, des emplois, etc., qui vont baisser. On va voir comment ça se place avec le logement. Donc, cette affaire, c'est vrai que nous entrons dans le dur, et nous entrons dans le dur après une année qui, jusqu'à l'affaire Benalla, avait été gagnante pour le président de la République. Ouais. Là, le climat n'est plus le même.
Irène Inchospé, est-ce que le gouvernement peut tenir son objectif de déficit budgétaire, franchement, avec ce tableau qui nous est dépeint?
Ça me paraît assez compliqué.
Tout le monde dit la même chose, hein, finalement.
Oui, parce que la croissance ralentit quand même. D'ailleurs, il faut noter que Eurostat a sorti les chiffres, là, et que parmi tous les pays européens, là, la France a la plus faible croissance au premier trimestre. L'économie française a cru deux fois moins vite que la moyenne européenne, et même moins vite que la Grande-Bretagne coincée avec le Brexit. Donc, l'effet Macron, déjà, on le sent plus trop au premier trimestre. Donc, moins de rentrées fiscales. Et en plus, un gouvernement dont l'affaire Benalla a révélé quand même la faiblesse du dispositif politique. Ouais. Donc, qui pour porter les réformes à la rentrée, on voit pas très bien. Donc oui, effectivement, ça va pas être très facile. Et Gérald Darmanin a dit qu'on ferait 1,8 de croissance. On les fera pas.
Ah, vous dites, qu'il n'y aura même pas 1,8?
Ah non, on n'ira pas à 1,8 parce qu'il faudrait qu'on fasse 0,6 ou 0,7 au deuxième semestre contre 0,4 au premier. Ouais. Et on les fera pas compte tenu du commerce international qui va pas très bien, de toutes les tensions, on ne les fera pas. Donc on sera pas à 1,8.
Thomas Ganelli, pas d'effet Macron pour vous?
Ah ben, il y a un effet Benalla plutôt cet été. C'est très clair. On a vu Macron et toute son équipe être ridicule, je crois que le mot n'est pas trop fort, dans l'affaire Benalla. On a eu un enfant roi irresponsable et bravache, c'est-à-dire qui vous dit qu'ils viennent me chercher, on dirait Sarkozy sous acide. On a vu les hommes du président...
Sarkozy sous acide,
oui, qui viennent me chercher. Qu'est-ce que cette bravache? On a vu les hommes du président mentir les uns après les autres. On a vu un ministre de l'Intérieur frappé d'amnésie sélective. Et on a vu une com' de crise qui nous a pris collectivement, nous les Français, pour des demeurés. C'est-à-dire, notamment, le relooking d'Alexandre Benalla, tabasseur de manifestants, engendre idéal au JT de TF1. C'était n'importe quoi. Je fais une parenthèse là-dessus. Si Alexandre Benalla, comme on nous l'a dit, répété, a trahi la confiance du chef de l'État, je peux savoir pourquoi ce sont les communicants de l'Élysée qui ont pris en charge sa communication de crise à lui pour aller faire TF1, Paris Match, etc. J'aimerais qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis à un moment
donné. Allez, je vais faire réagir Jérémy Pelletier sur cette affaire Benalla et puis sur ces difficultés gouvernementales de la rentrée. Mais pour l'heure, 20h20 sur France Info. Le retour de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Une enquête ouverte par le parquet de Bobigny pour déterminer les causes de l'incendie qui a fait 7 blessés graves hier dans un immeuble d'Aubervilliers. La maire de la commune, Mariem Derkaoui, affirme que le bâtiment qui a brûlé n'avait aucune autorisation pour servir de logement. Et elle pointe du doigt les marchands de sommeil. Il avait agressé au couteau deux personnes à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. C'était samedi, un homme de 26 ans mis en examen ce soir pour meurtre et tentative de meurtre. Le suspect reconnaît les faits. Une discussion avec ses deux victimes qu'il ne connaissait pas aurait dégénéré sur le parking d'une grande surface. 8 randonneurs tués dans la crue soudaine d'un torrent. Ça s'est passé au parc national du Pollino en Calabre dans le sud de l'Italie. Le bilan pourrait encore augmenter selon la protection civile italienne. Les victimes faisaient partie d'un groupe d'une quinzaine de randonneurs surpris apparemment par le mauvais temps. Le football ce soir avec les phases finales de la Coupe du Monde des femmes chez les moins de 20 ans. Et pour l'instant, c'est la mi-temps entre la France et l'Espagne. 0-0. Et puis foot encore, et Steve Mandanda, absent des terrains pendant 3 à 4 semaines. Le gardien de but de Marseille s'est blessé hier en championnat. Le deuxième gardien des Bleus manquera ainsi le retour des champions du monde sur le terrain. Ce sera le 6 septembre en Allemagne à l'occasion de la Ligue des Nations.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jérémy Pelletier, l'affaire Benalla à l'instant, on va dire inspiré, hein, Thomas Guénolé. Est-ce que ça laisse des traces au sein de l'opinion ou est-ce que, au fond, les Français n'en ont pas eu un peu marre du traitement surmédiatisé de cette affaire?
Deux choses. Effectivement, les enquêtes ont montré pas mal de choses cet été. D'une part, les Français considéré qu'il s'agissait d'une affaire grave dans la grande majorité. Et donc, tous ceux qui ont voulu minimiser ce que disait l'affaire, en tout cas dans les yeux des Français, là-dessus, je pense, avaient tort, parce que effectivement, dans la grande majorité, les Français ont considéré que c'était une affaire grave, que potentiellement, il pouvait s'agir d'une affaire d'État, quand bien même, ils ont également, dans une large majorité, estimé que peut-être les médias en avaient fait un peu trop. Après, la question, c'est comment ça impacte le président, comment ça impacte son gouvernement et sa majorité. Il est vrai que, pour le moment, il n'y a pas une rupture fondamentale, d'une part entre les Français et le président de la République avec cette affaire, et encore plus avec ses propres sympathisants. Aujourd'hui, vous avez 92-93% des sympathisants à La République En Marche qui soutiennent et qui ont encore confiance envers et vis-à-vis du président de la République. Donc, cette affaire-là n'a pas créé de rupture. Par contre, ce qui est certain, c'est que si ça crée quelque chose, c'est un début et une petite suspicion des Français vis-à-vis peut-être du président de la République et vis-à-vis du gouvernement, et donc je pense une attention décuplée vis-à-vis de cette rentrée politique. Mmh. Quand on regarde que dans cette rentrée politique, on va avoir le plan pauvreté, on va avoir effectivement la réforme des retraites, on va avoir la réforme de l'islam de France, je pense que cette affaire-là, dans tout ce qu'elle a pu entraîner comme phénomène, comme sentiment de suspicion, de brouillage, va décupler peut-être l'attention que les Français vont mettre dans l'activité, dans l'expression de la majorité du président de la République.
François Dorcival, vous êtes d'accord avec cette idée du côté mèche lente que pourrait avoir cette affaire?
Alors, oui et non. Oui, si il y avait d'autres révélations qui venaient des travaux du Sénat, puisque vous savez que la commission d'enquête de l'Assemblée a explosé en vol. Non, dans la mesure où les deux motions de censure qui ont été naturellement repoussées à la fin du mois de juillet ont clos politiquement cette histoire. Et que les institutions, on ne le dit jamais assez, les institutions sont le super paratonnerre du président de la République. Parce qu'il faut dire que pendant les 5 années de François Hollande, des histoires de ce genre, il y en a eu beaucoup.
Oui, c'est toute l'histoire de la 5e République.
Et en définitive, il ne s'est rien produit jusqu'à un moment donné, qui venait de son propre camp, qui a été le renoncement. Mais jusque-là, le président de la République est complètement à l'abri. Alors, tout à l'heure, on viendra sur les partis et vous verrez que la situation n'est pas plus favorable à droite ou à gauche.
Irène Ninchospé, pour ce qui est de cette rentrée des ministres, par-delà cette affaire qui nous a occupé pendant tout le mois de juillet et au-delà, donc l'affaire Benalla, il y a ce sondage qui est paru dans le JDD où on se rend compte que les ministres sont de parfaits inconnus aux yeux des Français. On va pas détailler, mais à titre d'exemple, j'ai relevé que, 94% des personnes interrogées ignorent qui est Delphine Gény-Stéphan. Ceci dit,
nous sommes dans l'eau,
on fait partie. Les 6%, je suis admiratif pour les 6% qui restent. Petite question, Irène Ninchospé, l'opinion ce matin, votre quotidien, au fond sonde un petit peu cette rentrée ministérielle. Vous dites-vous que certains ministres sont au fond très solides, vous citez Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, Muriel Pénicaud à l'emploi. Est-ce que ça n'a pas toujours été le lot finalement de tous les présidents, de tous les gouvernements de la Ve République? On leur ferait peut-être un mauvais procès. Les Français n'ont jamais été en mesure de citer les 30 membres des gouvernements successifs.
Ça, c'est sûr. Mais ce qu'il y a avec ce gouvernement-là, c'est quand même un gouvernement où il a fait rentrer beaucoup de représentants de la société civile, donc qui étaient totalement inconnus et qui restent quand même
et qui le restent,
parce que y compris Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud qui sont solides ne sont pas quand même qui sont pas connus.
Non.
Donc je pense que c'est lié à ça et c'est quand même juste pour revenir sur l'affaire Benalla, ça a montré quand même la faiblesse du dispositif politique de ce gouvernement. Parce que justement, ces experts qui sont reconnus plutôt bons dans leur domaine, enfin ça dépend des jugements, mais qui connaissent au moins leur domaine, mais quand il s'agit de passer sur le plan politique et de tenir un langage politique, il y a personne. C'est-à-dire qui est monté au créneau pour prendre la parole au moment de l'affaire Benalla, aucun des ministres.
Ouais. Donc le premier ministre.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc le seul maillon fort du gouvernement, pour moi, qui reste, c'est Édouard Philippe.
Professionnel de la politique, Thomas Guinolé veut réagir.
Oui, simplement sur la question de la société civile, il y a une escroquerie à mon avis qui a été réussie d'ailleurs par les macronistes, c'est de rebaptiser société civile des gens qui étaient juste des hauts fonctionnaires ou des responsables de tel ou tel grand organe public ou privé et qui sont rentrés en politique. Oui. C'est pas ça que veut dire société civile. Société civile, ce sont les ONG, ce sont les associations, c'est ce qu'on appelait dans les 100 plus anciens les corps intermédiaires et donc ça n'est pas ça. Avoir des cartes rondes d'anciens DRH à l'Assemblée nationale, c'est pas une entrée massive.
Oui, c'est pas la bonne appellation selon
vous.
Ce n'est pas la société civile, c'est juste des gens du privé qui sont entrés en politique et c'est leur droit. J'ai pas de problème avec ça.
Ils sont maintenant société politique comme les autres.
Oui, bien sûr. Un autre point sur lequel, sur la question de la rentrée budgétaire, je voudrais quand même rappeler que le fameux problème de ne pas respecter les 3% du PIB de déficit public. Quelle est la justification économique de cette règle des 3%?
Vous l'avez jamais fait.
Il n'y en a aucune. Aucune. C'est une norme totalement arbitraire. Et donc, je voudrais, pour les gens qui nous écoutent, insister sur le fait que toute cette politique d'austérité actuelle sert à respecter une règle qui n'a aucune justification économique. Pourquoi 3, pourquoi pas 2, pourquoi pas 6, etc. Et il n'y en a pas. C'est un truc qui a été pondu par la direction de Bercy de manière tout à fait arbitraire
par
dans
nous,
les années 80.
Oui. Par nous,
et
par
je
nous,
précise, et quant à la faisabilité de cette austérité, je rappelle aussi, et c'est mon dernier point là-dessus, que si demain, par miracle, on avait 1% du PIB d'excédent budgétaire au lieu d'avoir du déficit, rembourser notre dette publique, ça nous prendrait entre 75 ans et 100 ans. Donc les gens qui vous parlent de rembourser la dette grâce à l'austérité sont des incompétents.
Bon, Jérémy Pelletier, je vous promets que vous aurez la parole juste à la reprise. On se retrouve dans un instant, nous allons parler de la rentrée des partis et de la situation en Grèce.
Coucou chérie, alors ça avance ton CV ?
Ah, j'ai terminé, mais comme d'habitude, dès que j'ai besoin d'imprimer, il n'y a jamais d'encre.
Avec HP Instant Ink, on n'aurait pas ce problème.
Ah bon, et pourquoi ?
Parce qu'avec HP Instant Ink, tu te fais livrer tes cartouches à domicile avant que tu sois à court d'encre. Et tu peux imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois.
Gratuitement ? Et pourquoi on l'a pas cet abonnement, nous ?
Ça fait 15 fois que je t'en parle, mais t'as pas imprimé. Bon allez, tu nous inscris ?
Ah, tout de suite chérie.
Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimez gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac de Météo France.
Une très belle journée demain, plus mitigée au nord de la Loire avec des passages nuageux, quelques éclaircies. C'est près de la Manche que les nuages seront les plus nombreux, surtout le matin avec parfois une petite goutte ici ou là. Ailleurs, le soleil s'imposera vite, juste quelques nuages bas dans le sud-ouest, mais ça ne durera pas. L'après-midi, des nuages bourgeonneront en montagne. Ils pourront donner quelques averses orageuses sur les Pyrénées, le sud du massif central. Des averses orageuses plus nombreuses sur les Alpes, l'intérieur de la Provence et la Corse. Il fera souvent 14 à 19 degrés le matin, un peu plus près de la Méditerranée. Année 19 à 24, l'après-midi 22 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 33 ailleurs, et ça montera jusqu'à 34-35 degrés du Roussillon à la Provence.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
La rentrée universitaire, toujours plus chère en France, notamment en raison du prix des logements et des transports en commun. D'après l'étude annuelle de l'UNEF, chaque étudiant devra débourser cette année en moyenne 838 euros par mois. C'est 130 de plus que l'an dernier. Cet officiel Total quitte l'Iran. Le groupe français se désengage de ses projets d'investissement dans le pays. C'est Téhéran qui l'annonce aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un nouveau coup dur pour l'État iranien. Le rétablissement des sanctions américaines a déjà poussé plusieurs entreprises, en effet étrangères, à se retirer du pays. Franck Mathevon.
En quittant l'Iran, Total renonce à un contrat colossal, le développement d'un champ offshore dans le sud du pays, le plus grand gisement gazier au monde. Le groupe français détenait 50,1% des parts. On ne sait pas si elle pourrait être cédée à son principal partenaire, le chinois PetroChina. Total affirme n'avoir aucune information à ce sujet. L'entreprise espérait une dérogation des Américains, mais l'espoir était infime. Les États-Unis ont rompu l'accord sur le nucléaire et rétablissent peu à peu les sanctions contre l'Iran et contre toutes les sociétés faisant affaire avec Téhéran. Pas d'indulgence, la Maison-Blanche est très ferme. Total ne peut prendre le risque de s'exposer à des sanctions américaines qui toucheront en novembre le secteur des hydrocarbures. Les banques américaines sont impliquées dans plus de 90% des opérations de financement du groupe. Total se retire donc de ses projets en Iran, comme Air Liquide ou l'allemand Daimler, mais assure qu'il n'y aura pas d'impact sur ses objectifs de croissance.
Franck Mathevon, après le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et Chypre, autour de la Grèce, le dernier pays à émerger des plans d'aide internationaux. Mais les habitants n'en ont pas pour autant tout à fait terminé avec l'austérité. Les réformes, Athènes a reçu de ses créanciers, le FMI, l'Union européenne ou la BCE, près de 300 milliards d'euros de prêts en plusieurs tranches. En Afghanistan, les talibans rejettent l'offre de cesser le feu de 3 mois, faite hier soir par le président afghan Ashraf Ghani. Les insurgés estiment qu'une telle trêve ne ferait que servir les intérêts de la mission internationale sous commandement américain. Des combattants talibans ont enlevé des dizaines de passagers qui se trouvaient dans 3 bus dans une province du nord du pays. En Italie, le gouvernement autorise finalement le Diciotti, un navire de la garde côte italienne transportant 167 migrants secourus en mer, a accosté en Sicile. Le bateau attendait dans les eaux internationales depuis mercredi. Des scènes de panique en Indonésie, quelques semaines après les 2 tremblements de terre puissants et meurtriers de l'île de Lombok, de nouveaux séismes dont l'un de magnitude 6,9 à faible profondeur ont secoué l'île touristique de l'archipel, tuant au moins 10 personnes. Et puis le coup de frein de la justice allemande dans le Dieselgate, ses soupçons de fraude sur les contrôles anti-pollution chez Volkswagen. Les juges allemands refusent en effet de transmettre leurs éléments aux enquêteurs français. Les magistrats outre-Rhin estiment que cela risquerait de perturber gravement l'avancée de leurs investigations. Enfin, Joe Wilfried Tsonga, forfait pour l'US Open à New York à la fin du mois. Le Français est blessé depuis avril. Déjà absent à Roland-Garros et à Wimbledon, il espère revenir sur le circuit d'ici la fin de la saison, dit-il. Il est 20h33.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, Irénine Chauspé, journaliste à L'Opinion, Thomas Guénolé, politologue, chercheur associé à l'IRIS, et Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Alors les partis politiques font leur rentrée également, à l'exception du Rassemblement National, je crois que c'est début septembre, des partis pas forcément en meilleure forme qu'avant les vacances, avec dans le contexte une question au-dessus de toutes les têtes. Qui va conduire les listes des uns et des autres aux prochaines élections européennes de 2019? Ce n'est pas simple. Chez les Verts, affaire classée, Yannick Jadot s'y colle. Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, s'en réjouit. C'était jeudi dernier sur France Info.
Et déjà, moi, je suis vraiment heureux qu'on puisse arriver comme ça dans cette rentrée politique en ordre de marche. C'est-à-dire qu'on est, on arrive à nos journées d'été, c'est le 23 à Strasbourg, et donc on va pouvoir commencer une belle et longue campagne joyeuse où on va pouvoir vraiment aborder tous les sujets, rentrer un peu en profondeur plutôt que les petits slogans à la Make Planet Great Again. Là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le fond des choses et puis militer joyeusement. Et donc, on a besoin de temps long. Et là, vraiment, on a l'occasion de travailler pour voter en 2019 avec le sourire et pour l'écologie.
Voilà, alors Jérémy Pelletier, sans vouloir doucher son bel enthousiasme, hein, Julien Bayou veut un accord avec Génération S, la formation de Benoît Hamon, mais pas Yannick Jadot. Rien n'est réglé à gauche chez les écologistes, c'est toujours un petit peu la panique.
Bon. Alors déjà, je pense qu'il sera paniqué quand il va s'apercevoir que cette campagne ne sera ni belle, ni joyeuse. Quand vous êtes dans un climat où vous avez 10% des Français qui font confiance aujourd'hui aux partis politiques, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser que la campagne va être joyeuse et faite de plein de fleurs. Ce qui est intéressant dans cette rentrée, c'est qu'effectivement, les partis politiques, après l'élection d'Emmanuel Macron, ont été ringardisés. Se pose évidemment la question de leur utilité, se pose la question de la façon dont ils peuvent encore aujourd'hui exister, dont ils peuvent être utiles. On regarde le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National. Effectivement, ils ne font pas d'université d'été parce que quel est l'enjeu pour eux? L'enjeu pour eux, évidemment, c'est la survie, c'est la suppression et faire face à la suppression des 2 millions d'aides publiques face à cette affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. L'enjeu, c'est leur survie. L'enjeu de La République En Marche, parce qu'il y a un enjeu aussi, même chose, ils auraient très bien pu faire des universités d'été avec tous leurs sympathisants, tous leurs militants. L'enjeu pour La République En Marche dans cette rentrée, c'est la doctrine. C'est un enjeu de définition doctrinale. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils doivent définir ce qu'est le progressisme. Et notamment, vous en avez parlé tout à l'heure, en amont et en vue de ces élections européennes. L'enjeu des Républicains, c'est vraisemblablement l'unité. Vous avez un patchwork aujourd'hui d'individus qui ne s'entendent pas. Et donc, il y a un enjeu d'unité. L'enjeu du PS, je crois que c'est l'identité. Après l'inventaire de ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, je pense que l'enjeu, c'est...
En fait, on en est toujours au même point, finalement, dans cette histoire.
Toujours un peu. Oui. Et l'enjeu, sans doute, de la France Insoumise, mais Thomas Guénolé le dira sans doute, aura sans doute un autre avis que moi, mais l'enjeu, c'est sans doute la crédibilité pour sortir, en tout cas, de ce qu'est ce parti, à savoir un parti aujourd'hui populiste qui ne surfe que sur l'antimacronisme absolu.
François Dorcival, vous y croyez, vous, pour la petite histoire, hein, est-ce que ça existe encore quand Yannick Jadot dit « on va faire 15% c'est comme dans la vie d'avant, ça existe toujours, genre d'histoire ?»
Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, la vie d'avant ou le monde ancien, on repris du poil de la bête, puisque le nouveau monde a quand même beaucoup rejoint l'ancien. On va avoir ce climat-là à la rentrée parce que, précisément, il y a enfin un rendez-vous électoral en 2019. En 2018, il n'y avait rien du tout. C'était la mise à l'épreuve du gouvernement d'Emmanuel Macron et de ses réformes. Mais il est vrai que on sent une immense lassitude dans l'opinion, et l'opinion notamment des militants, à l'égard de la campagne, des campagnes.
Ouais.
Lassitude parce que on était hors sujet ou hors combat. Lassitude parce que on est fatigué. Ça, c'est un peu le cas de ce qui s'est produit à la France insoumise après la multiplication des défilés qui n'ont débouché sur rien du tout. Mais à droite, il faut dire que l'état d'esprit est un peu identique. Est un peu identique. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure du gouvernement, l'envers sur les partis de droite ou de gauche n'est pas plus brillant. N'est pas plus brillant.
Alors, pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, François Dorcival, Irène, une chose, est-ce que Emmanuel Macron, j'ai pas envie de poser de question, elle est idiote, est-ce qu'il joue gros, ça ne veut rien dire, est-ce que au fond, ce qui va se produire en ce qui concerne La République En Marche est une parfaite inconnue aux Européennes?
Oh, je crois, oui, parce que déjà, avec l'affaire Benalla, je crois qu'il avait déjà perdu les électeurs de gauche, avec sa politique économique. Je crois qu'avec l'affaire Benalla, il a perdu pas mal à droite. Et une des questions, ça va être que va faire la partie la plus centriste de la droite aux européennes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont se rapprocher d'Emmanuel Macron? L'UDI veut faire sa liste toute seule. Que va faire un Alain Juppé, un Jean-Pierre Raffarin? Il va compter ses soldats, si ouais. Je peux dire. Et oui, c'est un gros enjeu pour lui, parce que c'est vrai que pour l'instant, ce sont plutôt le PS et la droite des grands cadavres à la renverse, si je peux dire. Ils sont autant divisés à droite, à gauche. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir se remobiliser au moment des européennes? Wauquiez est aux abonnés absents, on l'a pas vu du tout de l'été. Donc, je pense que c'est un gros enjeu pour tout le monde, en fait.
Pour tout le monde.
Mais comme c'est très risqué, évidemment, ils se bousculent pas pour être tête de liste. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est très casse-gueule, ça l'a toujours été, les élections européennes. Et là, je pense que la participation, qui est déjà très faible en général, ce que vous avez dit, la lassitude et tout ça, elle va être particulièrement faible.
Donc tout le monde, chacun joue sa partition, mais tout le monde risque gros dans cette histoire.
J'ai l'impression.
Ça vaut pour tous. Hein.
Oui, ça vaut pour tous, ouais. Je pense que ça vaut pour tous.
Allez, 20h40 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Décision de la Cour d'appel ce jeudi dans l'affaire Boubacaris. Le parquet général a requis tout à l'heure le maintien en détention de tous les protagonistes mis en cause après 7h X à l'aéroport d'Orly, soit en tout les 10 personnes encore détenues, dont les deux rappeurs. Le pape Osloton, après le scandale de pédophilie révélé la semaine dernière aux États-Unis, dans une lettre diffusée par le Vatican, le souverain pontife condamne ces atrocités. Il appelle la communauté catholique à s'engager pour garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Un alpiniste italien de 36 ans a fait une chute mortelle de 600 mètres. C'était dans le massif du Mont Blanc. L'homme escaladait en solo sans être assuré la face nord des Grandes Jorasses lorsqu'il a chuté au passage d'un éperon rocheux. Total se désengage de ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran. Cette fois, c'est officiel. Le géant pétrolier français plie bagage après le rétablissement des sanctions américaines contre Téhéran. Les phases finales de la Coupe du Monde de football féminin des moins de 20 ans et la France désormais menée par l'Espagne. 1-0, but inscrit il y a quelques minutes. Joe Wilfried Tsonga, forfait pour l'US Open à New York à la fin du mois. Le français s'est blessé début avril, déjà absent à Roland-Garros et Wimbledon. Il dit espérer revenir sur le circuit d'ici la fin de la saison.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Thomas Guénolet, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion émise par Nathalie Loiseau, qui est la ministre des Affaires européennes, vous savez, je le sais, hein, je suis au courant, qui s'exprime dans le journal Le Monde cet après-midi et qui dit le scrutin du 26 mai 2019, donc les européennes, se jouera entre les progressistes d'un côté et les nationalistes de l'autre.
Je ne vois pas très bien en quoi les macronistes sont des progressistes. Je pense que c'est encore une escroquerie, puisque Emmanuel Macron, il fait une politique économique de droite. Je pense que personne ne peut le contester. Il fait une politique sociale de droite. Je pense que personne ne peut le contester non plus. Et je ne vois pas très bien en quoi sa politique d'immigration serait une politique de gauche. Donc, le fait de classer Emmanuel Macron à gauche est pour moi un mystère, ou en tout cas une escroquerie, ou de la communication qui a pu fonctionner comme, vous savez, le genre de flûte dans les contes pour enfants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Ça les arrangerait bien, effectivement, de faire une campagne d'un niveau particulièrement bourrin qui prend vraiment les gens pour des imbéciles, c'est-à-dire, nous, on aime l'Europe, donc nous, c'est bien. Et quand ce n'est pas nous, ils n'aiment pas l'Europe. Or, l'Europe, c'est bien. Donc, eux, c'est mal. Et nous, c'est bien. Votez pour nous. On est vraiment au niveau grande section de maternelle. Hein. C'est vraiment débile. Donc, vous direz à Madame Loiseau d'essayer de travailler un argumentaire de campagne qui tienne debout. Mais sur le fond, l'Europe de Macron, c'est quoi? Sur le fond, ce sont des politiques d'austérité. C'est moins de services publics en les transformant en marché. On est pour, on est contre. Moi, je suis contre. Et c'est la porte ouverte au dumping fiscal, au dumping social et au dumping écologique. Je ne reviens pas dans le détail sur les problèmes que ça donne, notamment pour l'agriculture, notamment pour les questions de travailleurs détachés, etc. etc.
Vous vous situez comment? Vous êtes eurosceptique? C'est quoi l'idée? Parce que je reviens à ce qu'explique Mme Loiseau,
mais non,
qui dit progressiste versus nationaliste.
Vous avez mentionné tout à l'heure, je le clarifie pour les gens qui nous écoutent, je suis non seulement membre de la France Insoumise, mais je fais partie des candidats de la France Insoumise aux élections européennes. Donc effectivement...
C'est bien de préciser.
Non mais c'est mieux quand même.
Et la tête de liste sera
3 alors, points, Charlotte Girard ou Manuel Bompard, ce qui n'a pas vraiment d'importance pour nous parce que ça fait des années qu'on fonctionne avec des binômes paritaires hommes-femmes pour des postes importants dans l'appareil. Donc, par exemple, à une époque, le parti de gauche, à l'époque où la France Insoumise n'existait pas encore, vous aviez un homme et une femme à sa tête. On fonctionne comme ça. Oui. Moi-même, je dirige l'école de formation politique de la France Insoumise. Ma co-responsable est une femme. On fait ça très, très souvent. Et donc, si vous me disiez eurosceptique ou je ne sais quoi, excusez-moi, mais c'est nous qui sommes fidèles à l'idéal européen de fraternité des peuples. Quel est le rapport entre la fraternité des peuples et le fait de mettre en place un gigantesque système de dumping fiscal, social et de concurrence de toutes les économies entre elles? C'est absurde. Nous sommes pour la fraternité des peuples européens, pas le gouvernement de Macron. Il ne faut pas renverser les rôles.
Vous avez compris une chose, c'est que, comme d'habitude, les élections européennes ne se joueront pas sur les vrais critères européens. Ils se joueront exclusivement, je le répète, sur la politique française. Ça veut
vous
dire
pensez
que
qu'on reviendra aux considérations purement nationales?
Mais Emmanuel Macron applique les préconisations de la Commission européenne, vous venez de le dire.
Ouais. Je l'illustre autrement, c'est-à-dire que ce qui sera jugé, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui sera jugé, c'est la situation de l'opposition dans ses différentes formations. Et on ne se demandera pas si Mélenchon est pour ou contre l'Europe. On se demandera si on envoie des députés Mélenchon à Strasbourg ou non.
Vous voulez dire, François Dossiel, que...
Et le Rassemblement National, même chose.
Des sujets comme la migration, les travailleurs détachés,
ce sont des questions en effet européennes, mais qui seront traitées de manière française.
Ramenées au niveau national,
c'est comme ça, le référendum de 2005, c'était un référendum sur la mondialisation.
L'élection européenne est un sondage grandeur sur la situation politique des différentes formations. C'est la raison pour laquelle c'est si important.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, Jérémy Pelletier, de la Fondation Jean Jaurès?
Justement, je trouve que, contrairement peut-être à d'autres moments et à d'autres scrutins européens, là, on va être dans une situation, donc dans 9 mois, où, au contraire, vous allez avoir effectivement La République En Marche, le parti du président de la République, qui aura une doctrine et une ligne qui sera unitaire sur le sujet européen et qui sera perçu et qui sera défini comme tel, ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'un certain nombre de partis de droite par le passé, ce qui n'était pas le cas, par exemple, du Parti Socialiste par le passé. Et là, je vous fais une fleur, je pense que, côté de la France Insoumise, ce sera la même chose. Et vous aurez les deux. Vous aurez La République En Marche, d'une part.
Il y a cinq minutes, on était des populistes sans contenu, mais c'est pas grave.
Je ne suis pas en train de me contredire, je dis juste que vous aurez une ligne claire anti-européenne contre d'autres qui sont pro-européens.
Ça s'appelle L'Avenir en Commun, je vous invite à le lire avant de dire la prochaine fois qu'on n'a pas de programme.
Alors, difficile de parler d'Europe sans évoquer évidemment la Grèce. 8 années de crise lourde, profonde. 274 milliards d'euros de prêts. Un pays sous perfusion qui a vendu ses bijoux de famille pour tenter de survivre. Il faut le rappeler, Athènes quitte la tutelle de Bruxelles et du FMI et peut désormais regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité. Pour Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, des erreurs ont été commises dans la gestion de la crise grecque.
Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites de part et d'autre au cours de ces très longues années. D'abord, en 2010, on a pensé que la maison était solide, et on s'est dit, en 2 années, avec un programme, on va se sortir comme on le fait pour l'Irlande. Non, c'était beaucoup plus profond, et on a sous-estimé la crise. Deuxième erreur, les mécanismes de solidarité, comme le mécanisme européen de solidarité qui a été créé en 2010, l'ont été faits un peu sous la pression de la crise, et n'ont pas été, encore une fois, des mécanismes volontaires. Et il y a eu des confrontations politiques au sein de la zone euro. Et puis, troisièmement, en 2014, on a raté le coche de très peu. Il s'est fallu de quelques millimètres d'un accord sur la TVA, sur les îles ou sur les retraites. On a perdu des années. Et enfin, il y a eu l'année 2015 qui était une année terrible, où d'un côté on a eu ceux qui voulaient le Grexit, mais il y a eu aussi M. Varoufakis, qui a proposé des mesures tellement irresponsables qu'elles ont coûté des années de croissance à la Grèce.
Alors Irène Inchospé, Pierre Moscovici parle d'erreur. Il y a eu également effectivement Alexis Tsipras, le leader de Syriza, arrivé au pouvoir en 2015, avec le très médiatique ministre des Affaires des Finances, Yanis Varoufakis. Ils avaient promis de tourner le dos à la Troïka, la Commission, la BCE, le FMI, et finalement Tsipras a signé le troisième plan d'aide et éviter le Grexit. Est-ce qu'il y a d'un côté, au fond, les promesses électorales, le rêve, et puis soudain, le monde réel, économique et sauvage?
Monde réel, économique et sauvage. Comme
un peu ironique, hein.
Oui, comme vous y allez.
Le principe de réalité économique.
Peu, je crois. Oui. Non, écoutez, moi, je pense que oui, c'est le réalisme. Il a d'ailleurs il s'est un peu affronté par tweet interposé avec Jean-Luc Mélenchon en disant, voilà, il y a une gauche qui est réaliste et qui arrive au pouvoir, qui comprend ce qui se passe et qui sait gouverner, et Mélenchon ne saurait pas quoi faire s'il y arrivait. Bon. Donc, moi, je pense qu'il a eu raison. Alors, ils ont payé très, très cher. Ils ont payé très cher, puisqu'aujourd'hui, ils ont perdu un quart de leur richesse nationale, quand même, en 8 ans.
Oui.
Ils ont un chômage qui est toujours à 20%, certes.
Il 28.
Il était à 28, il est descendu.
Il est descendu
en 20, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes Grecs qui ont dû fuir le pays. Donc, franchement...
Il y a la croissance, hein.
La croissance revient.
Quand le pays a coulé avant, la croissance, attendez, le bateau a coulé, et puis à un moment, il est remonté d'un mètre. Vous avez vu, la situation s'améliore.
Non, mais c'est vrai que la situation s'améliore. C'est vrai qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ouais. Il y a le problème de la dette qui est quand même très important et qui est reporté à 2032. Donc il y a un mur de la dette en 2032, mais ils sont sortis des soins intensifs. Ceci dit, le patient porte de lourdes séquelles. Donc pour qu'il s'en sorte, il faudrait qu'il y ait une très forte croissance, et ça ne va pas être facile d'assurer 2% de croissance chaque année. Donc ils ont quand même décidé de continuer à les aider un peu, mais bon, Tsipras a dit enfin les Grecs vont s'occuper eux-mêmes de leurs affaires. Moi je pense que c'était le prix à payer pour rester dans la zone euro, c'est un prix très élevé. Je pense qu'à terme il faudra...
Pensez qu'il y aurait dû avoir une rupture entre Syriza au pouvoir et la Troïka?
Une rupture, ça voulait dire à l'époque sortir de la zone euro. Est-ce que ça aurait été mieux? Je ne pense pas. Et maintenant, je pense qu'il faudra un jour une dette à 180% de la richesse nationale. C'est pas tenable. Il faudra bien, avant 2032, se dire qu'il faudra en réduire une partie pour la rendre plus soutenable, parce que sinon, ils ne s'en sortiront pas.
Allez, nous poursuivrons sur la Grèce dans un tout petit instant, juste après le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Une enquête ouverte par le parquet de Bobigny pour déterminer la cause de l'incendie qui a fait 7 blessés graves hier dans un immeuble d'Aubervilliers. La maire Meriem Derkaoui affirme que le bâtiment n'avait aucune autorisation pour servir de logement. Elle dénonce les marchands de sommeil. Il avait agressé au couteau 2 personnes à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. C'était samedi. Un homme de 26 ans mis en examen ce soir pour meurtre et tentative. Le suspect reconnaît les faits. Une discussion avec ses 2 victimes qu'il ne connaissait pas aurait apparemment dégénéré sur le parking d'un supermarché. 8 randonneurs tués, emportés par la crue soudaine d'un torrent dans le parc national du Pollino en Calabre. C'est dans le sud de l'Italie. Le bilan pourrait encore augmenter. Les victimes faisaient partie d'un groupe d'une quinzaine de randonneurs surpris par le mauvais temps. Steve Mandanda, absent des terrains pendant 3 à 4 semaines. Le gardien de but de Marseille s'est blessé hier à Nîmes en championnat. Le deuxième gardien des Bleus manquera ainsi fatalement le retour des champions du monde sur le terrain le 6 septembre en Allemagne à l'occasion de la Ligue des Nations. Et puis le foot encore et les phases finales de la Coupe du Monde féminin des moins de 20 ans. La France menée toujours par l'Espagne 1 à 0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
François Dorcival, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au fond en Grèce, vous diriez quoi? Cette Europe, elle soutient ou elle contraint?
Eh bien, elle a contraint et elle a soutenu. Il y a quelque chose d'amusant et de symbolique. C'est que le Premier ministre Alexis Tsipras, dont vous avez rappelé qu'il est au pouvoir depuis 3 ans et demi, va prononcer un discours à la nation, donc un discours devant les Grecs. Où est-ce qu'il a choisi de prononcer ce discours ? Sur l'île d'Ithaque. C'est symbolique, puisque l'île d'Ithaque, c'est l'endroit où Ulysse,
oui,
rentre,
l'Odyssée,
retrouver Pénélope après avoir beaucoup bataillé et beaucoup traversé la Méditerranée, après tant d'épreuves. Donc les épreuves, l'Europe, mais pas l'Europe, le FMI, les institutions internationales, les ont poussées au maximum en Grèce. Et la question qu'on se pose, pourquoi les Grecs l'ont-ils accepté ? Accepté, effectivement, la réduction de leur richesse nationale d'un quart. C'est qu'il y avait en contrepartie, forcément, un enjeu positif pour eux. Sans quoi, on ne voit pas, on se dit, mais ils sont fous, ces Grecs.
Ils avaient dit non, quand même, au Parlement.
Ils avaient dit non, ils avaient dit non,
rien du tout. Ils l'ont fait, ils sont restés dedans. Et donc, ça signifie que, malgré tout, les avantages, même délicats, même difficiles, même éprouvants, étaient supérieurs à ce qu'ils ont subi.
Allez, de façon rapide, Thomas Guénolé, je vous vois un petit peu protester, là. Vous n'êtes pas d'accord avec ce regard qui est porté sur ce qui s'est passé en Grèce ?
Ah non, non, mais c'est très important de faire le bilan maintenant d'une politique complète d'austérité dans un pays, la Grèce, parce qu'on nous dit effectivement, ce sont des politiques réalistes, il faut faire donc politique d'austérité, de privatisation, de baisse des droits sociaux, parce qu'il n'y a pas d'autre voie, et que c'est ça qui va marcher pour faire baisser la dette et ravoir de la croissance qui permettra de l'emploi. Eh bien, on peut juger maintenant, on peut juger sur pièce. La dette publique a explosé. C'était 135% du PIB en 2009, c'est 180% en 2018.
Le chômage a baissé.
Bah oui, j'entends
c'est
bien.
C'est la même, la dette publique.
Excusez-moi, mais le chômage a explosé. Il était de 10% en 2009, il est passé
à
20% en 2018.
Est-ce qu'il y avait une autre voie pour Tsipras ?
Le pays, attendez, excusez-moi, il faut que les gens entendent ça. Parce qu'on dit qu'ils sont sortis de la tutelle, c'est formidable. Le bilan est catastrophique. Le pays a perdu 400 000 habitants.
Personne
c'est un peu moins que la population de Toulouse. Non, de dire que le résultat est positif même. Non, un pays qui perd 400 000 habitants qui voient son taux de chômage doubler et qui voient sa dette passer de 135 à 180% du PIB. C'est une catastrophe. Il faut que les gens entendent.
Vous ne répondez pas à la question.
Attendez, je termine juste sur le bilan.
Ça tourne.
Il faut quand même savoir que l'Allemagne s'est fait 3 milliards d'euros d'intérêts sur des prêts à la Grèce, sur le dos de la Grèce, en pleine période d'austérité. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la solidarité européenne ?
Pour vous, c'est un constat d'échec de ce qui s'est produit.
Mais pourquoi l'ont-ils subi pendant 9 ans ?
François Dorcival pose la bonne question. Pourquoi l'avoir subi ? Pourquoi est-ce que M. Tsipras n'a pas changé son fusil d'épaule et passé à autre chose ? N'a pas-t-il tenu son discours ?
Il s'est converti, comme beaucoup d'autres forces de gauche avant lui, à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative aux politiques d'austérité. Et le résultat, c'est une épidémie de dépression et de suicide en Grèce. Donc il faut comprendre de quoi on parle.
Parce que le coût de sortie de la zone euro était supérieur.
Était insupportable pour la Grèce, qui n'est pas la Grande-Bretagne.
Jérémy Pelletier, ça ne va pas faire du bien, cette histoire, à notre campagne des européennes. Hein.
Non, enfin, vous avez déjà...
Vous qui êtes europhile, et vous le dites
haut et fort. Aujourd'hui, vous avez 35-36% des Français, de toute façon, qui doutent de l'impact de l'Union européenne, de l'impact bénéfique de l'Union européenne dans leur vie. Et donc, de fait, vous allez avoir une campagne qui va être très difficile, très tendue. Je voudrais revenir sur ce que disait Irène Chauspé, sur le patient porte de lourdes séquelles. Et effectivement, c'est aussi cette réalité, malgré tout, qu'il faudra avoir en tête, même pour l'avenir, en fait, de la Grèce, rien en termes de politique publique, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Vous avez effectivement un tiers aujourd'hui des employés qui sont à temps partiel. Vous l'avez dit, une explosion des phénomènes de dépression, des suicides depuis 2010. Vous avez une explosion de la consommation de psychotropes, d'anxiolytiques et, chose très importante, vous avez le taux de fécondité par femme qui est le plus faible maintenant d'Europe. Vous aviez 1,8 enfants par femme en 2010, vous êtes tombé à 1,3 en 2018.
Oui, mais en Espagne aussi.
Ça va avoir des conséquences. Non, mais ça va avoir une conséquence qui est importante, c'est en termes de renouvellement générationnel, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu de politique publique.
Vous avez raison, mais l'Espagne est aussi à un taux de fécondité de 1,3.
Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient sortis de la zone euro ?
Que
se serait-il passé s'ils étaient sortis de la zone euro ? On ne peut pas refaire l'histoire, mais voilà. Moi, je pense que
mais ça, vous ça faites aurait... un lien, pardon madame, mais vous faites un vous lien d'automaticité entre le fait de suivre les politiques d'austérité et le fait de rester dans l'euro. On peut rester dans l'euro et ne pas faire une politique d'austérité. La preuve, c'est le Portugal, qui s'en sort très bien en termes de croissance, ouais, de création d'emplois, et qui ne fait pas une politique d'austérité, madame, et qui est resté dans l'euro, alors qu'il a un problème de dette aussi.
Il s'en sort très bien parce qu'il y a eu une politique d'austérité avant. Avant,
et qui capitalise là-dessus.
Non, non.
C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Qu'est-ce qui se serait passé en termes économiques et aussi en termes de fécondité, hein. Ouais. Voilà, une petite note de légèreté à la fin des informés de France Info. Merci, merci à vous, Thomas Guénolet. Merci à Jérémy Pelletier. François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Cette semaine, on revient sur l'école et la formation des maîtres.
Très bien. Et vous-même, Irène Chospé, demain, qu'est-ce qu'il y aura à la une de l'opinion ?
Les ennemis de l'Europe.
Ah ben voilà, tiens, nous sommes
L'Union européenne et Macron notamment sont les ennemis de la vraie Europe.
Allez, c'est la fin des informés.
C'est pas tout à fait ça l'angle.
Merci à tous les quatre, merci à tous nos auditeurs. Je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition des informés sur France Info.